On est content d'être ensemble et je vais vous inviter donc à prendre votre Bible dans Matthieu chapitre 6 et nous allons parler de la motivation. Est-ce que c'est vrai que pour faire n'importe quoi, on a besoin d'être motivé? Est-ce que c'est vrai? Déjà pour se lever le matin, déjà pour aller au travail et ceux qui sont plus jeunes pour faire ses devoirs. Pour faire le ménage, pour faire la vaisselle, ça fait donc 42 ans que je fais la vaisselle tous les jours à midi. Et la semaine dernière, on a acheté un nouveau lave-vaisselle et je ne fais plus la vaisselle. Je suis vraiment super content. Et aussi soulagé. Et on a besoin d'être motivé pour faire n'importe quoi. Et le problème fondamental avec la prière, c'est la motivation. Être motivé. Et nous allons donc prendre un texte et nous allons voir ce que Jésus dit concernant la motivation. On va prendre dans Matthieu chapitre 6. Et donc dans ce texte, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte? Parce que c'est Dieu qui prie dans la personne de Jésus. Donc ici nous avons un enseignement qui est parfait, nous avons une prière, elle est parfaite. Et on peut se poser la question, puisque Jésus était Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie? Pourquoi est-ce qu'il prie? Et il prie, premièrement, pour être en relation avec son Père, une relation constante. Jésus dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que le Père me dit. C'est un acte d'obéissance. Et il a besoin de rester en contact avec son Père. C'est une relation de dépendance. Et on peut dire, on peut résumer la prière dans une phrase. La prière n'est pas prendre ce qui est dans la main de Dieu, mais la prière, c'est prendre la main de Dieu. Et pour beaucoup de gens, la prière, c'est Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ça, donne-moi une nouvelle voiture, Seigneur, donne-moi une belle maison, donne-moi une femme intelligente, spirituelle, etc. Enfin, vous l'avez déjà, certains d'entre vous, hein, alors donc c'est déjà bien. Mais vous avez remarqué que malheureusement, beaucoup de nos prières sont centrées sur nos besoins et pas centrées sur Dieu lui-même. Et quand Dieu lui-même devient le centre et la source de notre vie des prières, nous avons compris ce que c'est la vraie prière. Deuxième raison pour laquelle Jésus prie, eh bien, nous allons voir dans ce texte, Jésus, il prie pour être un modèle pour nous. Il nous donne un modèle et dans ce texte, Jésus dit dans le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Si vous avez la tête vide, si vous êtes fatigué, vous ne savez pas comment prier, eh bien vous prenez ce texte, vous lisez à haute voix et c'est une prière parfaite, c'est gagné. » Et Jésus, il prie aussi parce que, et c'est une troisième raison, parce que le diable et le mal, la tentation sont des réalités. Et Jésus, il a prié 19 prières. Et vous allez remarquer dans certaines de ces prières, Jésus a prié pour la protection du mal et aussi du diable. Et la protection, c'est un sujet majeur dans toute la Bible. Et puis, Jésus, il prie parce que ça fait partie de son ministère permanent. Ça fait partie donc de son ministère permanent. J'aimerais donc lire ce texte, peut-être on va se lever, comme ça vous ne dormez pas tout le temps. Hein. Et je vais lire ce texte, Matthieu chapitre 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'offrande, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et vous connaissez, je pense, par cœur la prière de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais vous faire remarquer dans ce texte qu'il y a trois choses qu'on fait dans le secret. Regardez bien dans le texte. Lorsque tu fais l'offrande, verset 3, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton demande se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et là, j'aimerais faire une remarque importante concernant la prière. C'est quelque chose qu'on fait dans le secret, mais l'offrande, c'est aussi une forme de prière. Et malheureusement, on ne prêche pas assez sur l'offrande, parce qu'on a peur de vexer les gens, il ne faut pas parler d'argent, sauf quand il y a des crises financières dans l'église, on fait les annonces, on fait les assemblées générales, il faut dire aux gens, il faut donner un peu plus, mais Jésus nous fait comprendre dans ses textes que l'offrande, c'est une forme de prière, et ça doit se faire donc dans le secret. Et on peut dire que l'offrande exprime notre capacité de nous détacher des choses matérielles. Alors, je vais vous poser une question. Je vais vous demander de lever la main. Est-ce que vous êtes attaché à des choses matérielles? J'aimerais vous voir. Allez-y, levez la main. Il n'y a que des gens spirituels ici. Enfin, il y en a certains. On est très attaché à des choses matérielles, c'est vrai. Que ce soit vos chaussures, que ce soit votre voiture, que ce soit vos lunettes. Hein. Et on est attaché à des choses matérielles. Et on a du mal parfois à se détacher de ces choses-là. Et chaque fois lorsque on donne de l'argent à Dieu, on ouvre la main, c'est une forme de prière. Il y a quelques années, après un séminaire donc à Colmar, c'est avant le séminaire, on était invité chez des gens très riches. C'est un pilote d'Air France. Et à la fin du repas, sa femme dit, on aimerait vous faire un petit don exceptionnel pour faire un voyage en Israël. Super. Elle arrive avec une grande enveloppe et dit, vous allez voir tout à l'heure, c'est un petit don. On aimerait donc faire un acompte pour aller en Israël. Alors je me suis dit, mais je me demande qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Et un peu plus tard, quand j'étais encore chez eux, je vais aux toilettes et j'ouvre le grand enveloppe, plein de dollars. Oh, je commence à compter. Dire Françoise, on a reçu le téléphone à Françoise, je sais qu'on a reçu que des dollars. Elle dit, c'est fait rien, on va les changer. Hein? Et on n'est jamais allé en Israël, c'est formidable. Et chaque fois lorsque j'ouvrais mon portefeuille, je voyais ces dollars. Hein? Et j'imaginais déjà en Israël. Et un jour, je suis allé donc à Nogent-sur-Marne pour visiter un couple de notre église qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et on dit, Yann, excusez-nous, on aimerait t'inviter à manger, mais il n'y a que des patates. Il n'y a pas de viande, il y a de fromage, parce qu'on n'a plus d'argent. Qu'est-ce que j'étais triste, quoi. Et après le repas, on n'a mangé que de patates avec du beurre. Je suis allé aux toilettes, et qu'est-ce qui se passe? Mon portefeuille est tombé juste à côté de la cuvette. J'ai eu très chaud, hein, parce que j'ai pensé à mes dollars. Et tous mes dollars sont tombés par terre. Et très vite, j'ai ramassé tout. Et j'ai tout raconté. Hein. Et le Seigneur m'a parlé. Maintenant, tu donnes tout. Oh, je t'en Seigneur, je donne la dîme, moi. Hein. Maintenant, tu donnes tout à ce jeune couple. Il dit, alors, je donne 50%, Seigneur. Hein. Maintenant, tu donnes tout. Il ne faut pas oublier que je suis écossais. Hein. On dit que les écossais sont très avares, hein. Ils sont très attachés à l'argent. Hein. Et vous savez quoi? J'ai dit à ce jeune couple, est-ce que vous avez une enveloppe? Je suis allé dans ma chambre, j'ai tout mis dans une enveloppe et j'ai mis un verset. Et j'ai tout donné. J'ai téléphoné à ma femme. J'ai dit, tu sais quoi? Je mangeais que de patates. Donc j'ai tout donné. Alors Françoise me dit, mais tu n'as pas tout donné. Il dit, j'ai tout donné. Il dit, tu n'aurais pas tout donné. Tu aurais dû donner un dixième, la dîme. Donc j'ai tout donné. Pas facile, hein? Et vous savez la fin de l'histoire? Quand je suis retourné chez moi, à la maison, je suis allé sur mon compte en banque et quelqu'un a versé le double sur mon compte en Écosse. Un don. Dieu y voit. Et vous savez, chaque fois lorsqu'on ouvre la main, il y a une bénédiction de la part de Dieu. Et on peut dire aussi, la deuxième chose qu'on fait dans le secret, c'est pas seulement l'offrande. Et je vous encourage à préparer soigneusement votre offrande pour dimanche prochain. Et là, je ne parle pas seulement de l'argent, mais peut-être que vous pouvez donner de votre temps, de vos capacités à Dieu, et d'ouvrir la main et de donner davantage à l'Église. Parce que c'est une forme de prière. Et deuxième chose qu'on fait dans le secret, c'est donc la prière, notre capacité de nous attacher à Dieu. S'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, à sa personne. Et ces attributs, je suis en train de faire un travail sur tous les attributs de Dieu. Je les trouve une centaine. J'ai mis tout par ordre alphabétique. Je fais trois colonnes. Un verset, un attribut, une prière. Et tout le matin, et même ce matin, je prie sur un attribut de Dieu. Et je veux vous encourager donc de s'attacher davantage à Dieu lui-même. C'est ça, la vraie prière. Et ça, on le fait dans le secret. Et je peux dire que très souvent, je prie la même chose. Seigneur, encourage-moi, fortifie-moi et augmente mon salaire. Mais tout ça, ça changeait maintenant. Et je veux vous encourager vraiment de fonder votre vie de prière sur la personne de Dieu, sur les attributs de Dieu. Et c'est Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui dit, plongez-vous en Dieu comme dans une mer profonde. Vous en sortirez renouvelés, rafraîchis et pleins de nouvelle vigueur. Et ma vie de prière, depuis 30 ans, était changée. Parce que la prière, ce n'est pas seulement dans moi, mais c'est vraiment, je vais prier sur la personne de Dieu. Il y a le danger, donc, de tailler Dieu à notre image. Il y a même des chrétiens, ils ont des petits dieux, ils mettent dans un tiroir, selon leurs besoins. Et lorsqu'ils ont le besoin, ils vont ouvrir ce tiroir-là. Mais ce n'est pas ça la prière. C'est vraiment se plonger donc en Dieu lui-même. Qu'est-ce que je fais avec mon... Troisième chose qu'on fait dans le secret, c'est le jeûne à la prière. On en parle très... peu dans le milieu évangélique conservateur. Très peu. On pratique encore moins. Nos amis pentecôtistes, ils pratiquent parfois une fois par mois, etc. Mais malheureusement, dans nos milieux, on pratique très peu le jeûne et la prière. J'écris un livre sur le jeûne, je ne l'ai pas avec moi, intitulé « Disponible devant Dieu ». Et dans ce livre, donc, je vais parcourir tous les versets dans la Bible. Il y a plus de 90 versets dans la Bible concernant le jeûne. Et quelqu'un me dit, Yann, il faut nous parler du jeûne, mais il ne faut pas faire tout un plat. Vous avez compris? Et c'est un sujet très important dans la Bible. Jésus a pratiqué le jeûne, l'Église primitive a pratiqué le jeûne. Et peut-être qu'en votre décision future en tant qu'Église aussi, il faut réfléchir à cette possibilité de chercher la face de Dieu et de prier aussi, de jeûner ensemble. Donc, il est dit... dans le verset 17 du chapitre, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le jeûne, ce n'est pas un commandement, c'est une option. Ce n'est pas comme le baptême, ce n'est pas comme la conversion, mais c'est une option. Peut-être que vous avez des problèmes sur le plan physique, donc vous êtes quand même sauvés, heureusement. Hein. Donc ce n'est pas un commandement, mais c'est une option. Le jeûne n'est pas un but en soi, mais un climat de confiance, d'attente pour rencontrer Dieu. Et deux fois par an, depuis 30 ans, je fais une retraite personnelle. Là, je pratique le jeûne et la prière. Parfois, je suis allé dans un centre chrétien. Parfois, je suis allé dans un monastère. Ma femme avait peur que je change de vêtements et de coiffure, mais je suis toujours revenu à la maison. Et aussi, c'est pour pratiquer les jeûnes et la prière, pour demander une intervention de Dieu. Parce qu'au niveau de la prière, moi, je ne peux pas rien faire. Il faut que ce soit vraiment Dieu lui-même qui touche votre cœur. Et c'est montrer à Dieu que nous avons besoin d'une intervention de sa part. Donc, trois choses qu'on fait dans le secret, d'après ce texte. L'offrande, la prière et aussi donc, le jeûne. Maintenant, j'arrive au cœur de ce que j'aimerais vous dire. C'est dans le verset 6. Nous avons trois choses qu'il faut faire dans le secret. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Premièrement, priez le Dieu qui est là. Dieu, il est présent quand nous prions. Est-ce que nous le croyons? Bon, il y a deux personnes qui croient. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est là? En 1984, je suis allé en Corée du Sud pour une conférence Billy Graham sur la prière pendant 10 jours. Et tout le matin, je visitais les églises en Corée. Je ne parle pas de l'église de Yonkesho, je ne parle pas des églises charismatiques, mais je suis allé dans les églises presbytériennes, l'église baptiste, et tout le matin, à 6h30, je suis allé visiter ces églises. Et le pasteur était à l'accueil, à l'extérieur. Il disait, excusez-nous frère Yann, il y a seulement 3000 personnes à la réunion de prière ce matin. Moi, je dis, mais ce n'est pas grave. Hein? On est trois chez nous à Pierre-Latte. Hein? J'ouvre une porte et j'ai vu 3000 personnes à genoux en train de prier, tous en même temps. Je vais dans une autre église le lendemain, et puis un autre. Excusez-nous frère, on est seulement 2000 personnes. Oh mais c'est pas trop grave, hein? 2000 personnes, et quand je suis revenu, à ce moment-là, j'étais à Saint-Paul-des-Trois-des-Châteaux, je commençais une église là-bas, on avait commencé, et je commençais des runes de prière, donc à 6h30 le matin. Et aujourd'hui, une église dans cette ville. 6 ans plus tard, on était à la Pierre-Latte. J'ai démarré donc une réunion de prière à Pierre-Latte avec un stand biblique. J'ai tenu un stand biblique à Pierre-Latte pendant donc 30 ans. Et aujourd'hui, une église. Je me suis retiré de cette église. Je me suis dit, cette église ne va pas tenir. Si ce n'est pas moi qui prêche, ça ne marchera plus. Les gens ne viendront plus. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis parti, l'église a grandi. C'est incroyable. Hein? Dieu, il est là. Nous le disons, mais parfois, on ne croit pas. Et si nous croyons, il faut être présent à la réunion de prière. Je veux vous encourager, au nom de Dieu, de prier en tant que couple, de prier en tant que famille, de prier aussi en tant qu'église, et que la priorité soit la prière dans votre église, parce que Dieu, il est là. Dieu, il est là. Il est dit dans le texte, verset 6, et prie ton Père qui est là. Notre notion de Dieu le Père, si vous regardez attentivement le texte, regardez bien verset 1, votre Père, verset 4, ton Père, ça devient plus personnel, verset 8, votre Père, verset 9, notre Père, très intéressant, la dimension communautaire, verset 14, votre Père, verset 15, votre Père, verset 18, ton Père, verset 15, votre Père, et verset 18, ton Père. Dieu qui est là, Dieu qui est présent, Dieu le Père. Et c'est Henri Blocher que vous connaissez, c'est un grand théologien contemporain, qui dit « Attention, il y a un danger de comparer notre Père terrestre avec le Père céleste et de le remplacer. » Attention, Dieu le Père, c'est le Père universel, c'est le Père qui est capable pas seulement de créer, mais de recréer une personne. Si quelqu'un est au Christ, il est une nouvelle créature. C'est le Père, Dieu le Père, qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est le Père qui habite dans les cieux et qui règne dans l'univers. Ce n'est pas merveilleux? Vous n'êtes pas content de connaître ce Père? Et ce Père qui nous parle, c'est ça qui est formidable. Il est dit dans le psaume que les autres dieux, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, ils ont une langue, ils ne parlent pas. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. C'est Dieu qui est là. Et je veux vous encourager chaque matin de prendre votre Bible, d'ouvrir votre Bible et laisser Dieu vous parler. Et ça va transformer votre journée. La vraie prière, ce n'est pas ce que vous dites à Dieu, mais c'est de savoir écouter Dieu. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu donc qui voit. Il voit dans le secret. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit, Dieu y voit. Il voit ton passé, il voit ton présent, il voit ton avenir. Il te connaît parfaitement. Et puis, non seulement il voit, mais Dieu, il récompense. Dieu, il récompense l'homme et la femme de la prière. Moi, je suis là aujourd'hui, pourquoi? Parce que ma grand-mère, c'est une femme de prière. Elle avait un visage rond comme un ballon et un sourire de banane. Hein? Ça, c'est ma grand-mère. Et à l'âge de 5 ans, avec mon frère Kenneth, ma sœur Wilma, on se mettait à genoux dans sa cuisine. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on contemplait notre grand-mère. Elle était joyeuse. Elle était rayonnante. Elle était à genoux. Elle priait. Et moi, pendant la prière, qu'est-ce que je fais? Je ferme un œil pour la prière. Je garde un œil ouvert pour contempler ma grand-mère. Elle aime Dieu. Elle aime la prière. Et cette femme a mis dans mon cœur la flamme de la prière. La flamme de la prière. Et quand j'avais 18 ans, je démarrais en Écosse un groupe de prière dans notre église. On priait de 8h jusqu'à minuit pour la Chine, pour la Russie, pour l'Amérique du Sud. Et puis on priait pour les gens qui ne sont pas très civilisés, qui mangent des escargots, des cuisses de grenouille. Hein. On prie pour eux. Et puis, un pasteur de Paris nous envoie une cassette, dit « Priez pour que Dieu il envoie 6 jeunes en France pour une semaine. » Et nous étions 6, et après la prière, j'ai dit « On y va ou pas ?» Il dit « Mais Yann, tu parles pas le français, mais c'est pas grave. On va apprendre. » Et on nous a envoyé une feuille avec 34 phrases qu'on devait apprendre par cœur pour vendre des Bibles en porte à porte. Et j'avais un disque, hein, et j'ai mis un disque vinyle, et moi, je n'avais pas étudié le français et j'ai appris par cœur hein, mes phrases. Et je les connais encore aujourd'hui. Je vous donne la première phrase. Bonjour madame, nous faisons partie d'un groupe international. Nous ne sommes pas le témoin de Jéhovah ni le mormon. Mais je veux vous donner une Bible. Et puis on met une Bible dans la main des gens et puis on met une main derrière. Et puis les gens étaient obligés d'acheter une Bible. Et parfois j'ai oublié mes phrases. Mais depuis lors j'ai appris autre chose. Et je suis, la fin de l'histoire, que je suis allé avec ces 6 jeunes. Donc en France pour une semaine, et je suis resté 42 ans. Parce que j'ai compris que Dieu était là, que Dieu, il voit aussi, que Dieu, il récompense. Et derrière cela, il y avait le modèle de ma grand-mère. Et je vais vous encourager d'investir de temps de qualité avec vos enfants. Pas seulement de prier avec eux, de jouer avec eux, de s'amuser avec eux. De leur donner envie aussi de lire la Bible, de prier. De venir à l'église avec eux, d'investir pour vos enfants. Dieu, il récompense l'homme et la femme de prière. C'est Susan Wesley, elle avait 19 enfants. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Regardez bien. Ça, c'est Susan Wesley. Il y avait un fils qui s'appelle James Wesley et John Wesley, qui ont fondé les églises méthodistes et elle avait beaucoup d'enfants. Et dans sa cuisine, lorsqu'elle voulait prier, elle prenait son tablier, elle le mettait sur la tête, et tous ses enfants venaient autour d'elle, et ils se mettaient à genoux, et elle priait avec eux. Et Susan Wesley, elle dit cette belle phrase, « Dès que l'enfant est capable de parler, on s'ennuie à prier. » C'est pas beau ça? Donc, je vais vous encourager donc d'investir avec vos enfants, avec vos petits-enfants, parce que c'est Dieu qui va aussi donc vous récompenser. Donc Dieu, il est là, Dieu, il voit. Et qu'est-ce que je dois faire, moi? Eh bien, je dois entrer dans ma chambre. C'est un lieu secret, c'est un lieu de calme, loin de votre iPad, loin de votre ordinateur, loin de votre téléphone. Et se plonger en Dieu, dans la personne de Dieu. C'est un lieu secret. C'est un lieu secret. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. C'est comme Noé, et ce verset, on en a aussi dans l'Ancien Testament, c'est dans Exode, c'est tiré d'Exode, Exode 10, verset 22, nous trouvons ce verset, ainsi que dans Ésaïe 26, verset 20, « Entre dans ta chambre, ferme la porte. » C'est comme Noé, lorsqu'il a fermé la porte de manière hermétique, il était sauvé. Et nous aussi, on doit fermer la porte. Mais le problème, c'est que lorsqu'on ferme la porte, le corbeau, il vient semer dans notre esprit de mauvaises pensées. Et toutes sortes de pensées, c'est vrai ça? Paraît-il que, je lis ça sur Internet, il y a 40 000 pensées qui nous traversent la tête par jour. Et frères et sœurs, le combat spirituel commence dans la tête, au niveau de nos pensées. Et est-ce que vous avez remarqué que souvent, on est plus de personnes occultes qu'à la réunion de prière? Vous avez remarqué ça? C'est partout pareil. Pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines personnes ne viennent pas à la réunion de prière? C'est une bonne question, hein? Bon, il ne faut pas le vexer, c'est peut-être une question, ce n'est pas les bons horaires. À Pierre-là, on a changé les horaires 10 fois, et c'était toujours les mêmes personnes qui sont venues. Hein. J'ai un peu d'expérience. Et vous savez, je vais dire quelque chose. Quand nous prions pour les frères et sœurs, quand nous prions pour les frères et sœurs, on va arrêter les critiques. Et beaucoup de gens ne prient pas parce qu'ils sont en train de critiquer. Attention. Parce que je ne peux pas prier pour Henri et puis le critiquer 2 minutes après. Parce que quand je prie pour mon frère, je vais tisser des liens d'affection. Et la priorité dans la Bible, c'est la prière pour les frères et sœurs. Et il faut prier davantage les uns avec les autres. Il faut lancer donc le binôme de prière pour que les gens puissent prier 5 minutes ensemble une fois par semaine. Ils choisissent n'importe, enfin, quelqu'un de même sexe et peut prier avec, et de lancer des chaînes de prière pour que nous puissions tisser des liens. Et ça va arrêter les critiques. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Je ne vais pas le traduire en grec, mais je vais le traduire peut-être comme les Écossais. Enter into your room. Est-ce que vous avez déjà vu le film War Room? Qui a déjà vu? C'est un film américain. C'est très bien. C'est une dame qui va aller dans une pièce et elle va jeter par la fenêtre les chaussures, le vêtement dans son jardin et elle va créer une chambre de prière. Une chambre de guerre, elle dit. Pour lutter avec Dieu. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Parce que Dieu, il est là. Ferme la porte, c'est d'avoir une discipline au niveau de la pensée. Et je vous donne un conseil pratique, quand vous commencez votre temps de prière, d'avoir une feuille blanche et toutes les pensées qui vont vous distraire de Dieu, vous mettez sur une feuille, vous allez voir que vous allez avoir du travail. Hein. Et puis après, vous allez sur un verset ou sur les attributs de Dieu, vous allez prier là-dessus. Ferme la porte, cette discipline au niveau de la pensée. Fermez la porte. Et puis aussi, comprendre que le lieu de prière est un lieu de transformation. Prier, écoutez bien cette belle phrase, c'est moi qui l'ai inventée. Prier, c'est voir soi-même, les autres, le monde à travers les lunettes de Dieu. Et quand j'enlève mes lunettes, vous êtes tous devenus comme des petits nains. Et regardez bien. Et là, vous êtes tous transformés. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous êtes beau. Et prier, c'est voir soi-même et les autres, donc, à travers les lunettes de Dieu. Alors, j'aimerais terminer. 3 conséquences de cette prière profonde. De comprendre que Dieu, il est là, que Dieu y voit et que Dieu y récompense. On va trouver une nouvelle joie dans la prière parce que Dieu, il va être au centre. Une nouvelle ferveur dans la prière. Parce que ce n'est pas mes besoins d'abord, mais c'est Dieu. 2e conséquence, je vais désirer trouver un lieu tranquille, une méthode et aussi un partenaire de prière pour prier régulièrement et en profondeur. Et puis 3e, ça va être une nouvelle confiance dans Dieu le Père, sa personne, ses ressources, ses capacités de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Je termine avec une anecdote. J'ai encore une demi-heure, attention. Dans le deuxième demi-heure, je vais vous donner des conseils pratiques et des questions. On va avoir du temps pour des questions. Et cette histoire, j'ai lu dans un livre, elle est très belle. Ça se passe en Angleterre, dans un village. Et dans ce village, à côté, il y a des champs partout. Et dans un champ, à côté de l'église, il y a un petit garçon, c'est un berger, qui garde ses moutons. Et lorsque les cloches vont sonner pour inviter les gens à venir au culte, le garçon va se mettre à genoux dans son champ, entouré de ses moutons, et il va prier l'alphabet. Et tous les dimanches qui passent par là, par ce chemin, il voit un petit garçon qui est à genoux. Dès que les cloches vont sonner. Et il se dit, mais c'est quand même curieux ce petit garçon. Et un jour, il s'arrête. Les cloches vont sonner. Effectivement, le petit garçon, il va se mettre à genoux. Il commence à réciter l'alphabet. Et le pasteur lui dit, hey, mon petit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, attendez, il ne faut pas m'interrompre. Je termine ma prière. Il continue sa prière. Il termine. Et le pasteur lui dit, mais je me suis posé la question. Ça fait des semaines que je te vois. Chaque dimanche, dès que la cloche sonne, tu te mets à genoux. Pourquoi? Il dit, je ne peux pas aller à l'église parce que je dois garder mes moutons. Il dit, mais ce n'est pas ça le problème. Pourquoi? Est-ce que tu répètes l'alphabet comme ça? Le petit garçon, qui était très intelligent, il répond en disant, ne croyez pas que Dieu ne sera pas capable d'assembler des mots avec tout ce que je lui donne. Ne croyez pas que Dieu ne sera pas capable de faire des phrases parce qu'il connaît parfaitement mes besoins. Il dit, après avoir récité l'alphabet, je vais me taire pour laisser Dieu me parler. C'est pas beau ça? Prions. Prions pour nous-mêmes, pour que Dieu ranime la flamme de la prière dans notre cœur. Prions silencieusement. Prions aussi que Dieu nous donne envie de prier et de centrer notre vie de prière sur la personne de Dieu et pas sur nos besoins. Prions que Dieu nous donne aussi d'avoir une discipline plus grande au niveau de nos pensées. Demandons à Dieu aussi de nous aider à prier en tant que couple, de prier en tant que famille, et d'établir des objectifs pour le faire. Merci Seigneur pour ma grand-mère, merci pour toutes les personnes que tu as mises sur ma route pour m'encourager dans ma vie de prière, et qui ont été des modèles pour moi. Veille semer dans notre cœur, Seigneur, une nouvelle conception de toi, de savoir que tu es là, que tu vois, et aussi que tu récompenses. Dans le nom de Jésus. Amen.